c'est la boîte à musique.
Bonjour, c'est Anne sur Altitude FM. Venez avec moi à la découverte d'un compositeur de l'époque romantique. Connaissez-vous cet air ? C'est une des 13 petites pièces de Robert Schumann, intitulée Kinderszenen, c'est scène d'enfance en allemand. Il a composé en 1838, l'année où il s'est fiancé secrètement avec Clara. Ils étaient tellement amoureux qu'ils composaient l'un pour l'autre, parfois à partir d'un thème de l'autre. Célébrité à son époque, Clara a été la coqueluche des mélomanes européens et des plus grands compositeurs romantiques, tels que Chopin, Liszt, Mendelssohn, qui la portaient au nu. Celui-ci l'appelait sa petite démone, sa diablesse virtuose, car dès l'âge de 11 ans, elle composait en se produisant sur scène. Pourtant, elle a été comme effacée de l'histoire, très peu connue du grand public pendant longtemps. Elle est beaucoup mieux depuis 2019, le 200e anniversaire de sa naissance, lorsque son œuvre a été célébrée partout en Europe par de grands musiciens et musicologues. Elle est née en 1819, au début de ce fameux courant romantique. Pour les romantiques, la musique a le pouvoir de communiquer des émotions plus sûrement et avec plus de puissance que les mots. Je vais vous montrer comment sa vie et son art illustrent ce mouvement. Écoutons son trio pour piano, violon, violoncelle, composé en 1846, où elle insuffle à la structure classique une émotion romantique.
Thank you.
Pour elle, composer est une joie de produire. Mais est-ce permis de composer pour une femme ? Cela paraît plus qu'improbable à son époque, au XIXe siècle, où une femme doit consacrer son temps à son foyer. Parlons-en de son foyer. En plus de gérer l'éducation de ses 8 enfants, elle doit sillonner les routes d'Europe pour apporter de l'argent à la maison grâce à ses concerts. Car au début de leur mariage, son mari n'est pas encore très connu et il ne peut plus jouer de piano tant il a abîmé ses mains en s'y exerçant. Elle part souvent seule sur les routes, en Allemagne, en Autriche, en Russie et même à Paris. Elle sillonne l'Europe. Reprenons maintenant le cours de sa vie depuis le début pour évoquer l'enfant prodige qu'elle était. L'amour passionné qu'elle partageait avec son mari malgré les failles. La femme engagée envers ses enfants, ses amis, ses élèves. Voyons d'abord quels étaient les atouts exceptionnels de cet enfant prodige. Sa virtuosité, d'abord. Elle l'a développée dès sa prime jeunesse, puisque à 11 ans, elle donnait des concerts. Son père était son professeur. Elle compose aussi. Elle publie même un bouquet de polonaises à cet âge. Écoutons sa polonaise en C majeur numéro 2, interprétée par Elisabeth Sawadorski-McCann. Sa fougue, elle la tient de sa personnalité très forte, qu'elle ne laisse pas voir par son attitude. Elle reste en apparence soumise à son père puis à son mari, mais par son jeu, pétulant de vie, plein de flammes, aux retombées mélancoliques. Son père l'encourage, il est subjugué par ses qualités exceptionnelles. Voilà ce qu'il lui dit lorsqu'il l'accompagne pour se produire à Paris. Rares sont les femmes qui ont le privilège de monter sur les planches. Dans votre cœur, jouez pour toutes celles qui rêvent de gagner cette liberté. Vous savez, les parents et les enfants se vouvoyaient à l'époque dans ce milieu. Enfin, sa force d'interprète laisse les plus connaisseurs subjugués. Les critiques sont dithyrambiques. Elle l'évoque comme le lion musical du moment. Elle a particulièrement bien réussi l'art de la romance musicale. Or, le genre de la romance est cher aux romantiques, car le sujet est le plus souvent une histoire amoureuse et tragique, comme le dit Rousseau dans son dictionnaire de la musique. Écoutons la romance numéro 1, opus 11, dédiée à son mari, par Clémentine Dubost. « Voyons la nature de cet amour, passionné, contrarié et fructueux. Elle a rencontré son mari lorsqu'il venait prendre des cours chez son père. Ironie de l'histoire, ce père s'est fermement opposé à cet amour. Il a fallu même un procès pour avoir le droit de se marier avant ses 21 ans, âge de la majorité à l'époque. En attendant un jour de plus, elle aurait pu recevoir l'argent gagné depuis 10 ans qu'elle se produisait en concert et que conservait son père puisqu'elle était mineure. Pour essayer d'empêcher ce mariage, il la prévient « Je ne te donnerai pas ton argent si tu te maries avant tes 21 ans. » Mais par amour pour son mari, elle s'est fâchée avec son père. Sa mère, elle, était partie lorsqu'elle avait 5 ans. Et suite à cela, elle avait perdu momentanément l'usage de la parole. Elle ne l'a retrouvée que lorsque Robert lui a composé une œuvre. « J'ai écrit une musique rien que pour toi. Elle porte ton nom. » Depuis leur fiançailles, ils composent l'un pour l'autre. On peut parler de fusion artistique des fiancés. Ils avouaient dans leur journal commun « Nos affinités sont si étranges ». Ils s'inspirent l'un de l'autre. Il écrit un impromptu sur un thème de Clara Wieck. Écoutons-le, interprété par Jean-Philippe Collard. Elle écrit aussi, elle, des variations sur un thème de Robert Schumann. Écoutons la variation pour The Pianoforte numéro 4 par Ragnar Schirmer. Ils composent l'un pour l'autre pour leurs anniversaires respectifs, pour Noël. D'ailleurs, c'est seulement pour ces occasions que Clara s'autorisait à composer. Alors que Robert, lui, pouvait passer tout son temps à le faire. Il monopolise l'unique piano de la maison. Clara l'inspirait, elle était sa muse. Ils considèrent leur couple comme des jumeaux de l'esprit, des doppelgängers en allemand. C'est un peu comme s'ils voulaient reconstituer l'androgyne mythique, thème cher aux premiers romantiques. Comme Novalis qui disait « Je crois à l'humanité infinie qui était là avant que de revêtir le voile du sexe, le manteau du féminin et du masculin. » Novalis souhaite que la société parvienne à l'entière destruction des préjugés qui ont établi entre les deux sexes une inégalité de droits, funeste à celui-là même qu'elle favorise. Mais Robert, pourtant un grand romantique lui aussi, lui fait bien sentir qu'en tant que femme, elle doit se consacrer davantage à sa famille. Heureusement, cela ne l'a pas empêché de jouer et de composer. Ce qui n'était pas donné à toutes les femmes à l'époque. Son amie Fanny Mendelssohn lui disait « Quel trésor que tes 10 doigts qui courent sur le clavier, qui tiennent le crayon pour composer. Ils valent de l'or, crois-moi. Tu peux être fière de t'être frayé un chemin dans ce monde d'hommes. Je te souhaite de pouvoir continuer ainsi, maintenant que tu es mariée. » Fanny, quant à elle, n'a pu avoir la carrière qu'elle méritait, car son père comme son frère s'opposaient à cela, pour la seule raison qu'elle était une femme. Alors qu'elle avait autant de talent que son frère, Félix. La meilleure amie de Clara, Pauline Viardot, autre femme qui fait exception à la règle, voit d'un très mauvais œil le mari de Clara, qui la bride. D'ailleurs, c'est aussi un des arguments du père de Clara pour refuser ce mariage. Lorsque Robert lui demande sa fille en mariage, voilà ce qu'il lui répond. « Épouser Clara ? Mais tu n'y songes pas. Un avenir brillant l'attend et tu voudrais qu'elle s'unisse à un illustre inconnu comme toi. Tu rêves, mon garçon. Je ne veux pas que tu la freines dans son élan, ni que tu lui assignes un second rôle. Je t'interdis formellement de la revoir. » Il est inquiet aussi de la constitution mentale fragile de Robert, ce en quoi il n'avait pas tort. Par contre, il n'avait pas prévu qu'il deviendrait un des principaux musiciens romantiques et que Clara n'aurait de cesse de faire connaître son œuvre en la jouant elle-même. Voyons maintenant comment cette femme était engagée envers son entourage, sa famille, ses élèves, ses amis. Elle forme avec ses enfants une belle famille, même si elle leur a beaucoup manqué, car elle n'est pas souvent à la maison. Ses enfants l'admirent. C'est une star, c'est une vedette. Pourtant, leur intimité est toute simple. On le voit par exemple lorsqu'elle achète une petite maison que ses enfants appellent pour rire la niche à chiens, car elle les appelait sa nichée. Ils y passent de merveilleuses vacances tous ensemble, les étés 1862-1863. « Elle était le plus grand trésor que nous possédions en ce monde », écrit sa fille Eugénie dans son livre de souvenirs. Elle devient veuve à 36 ans, en juillet 1856. La mort de son mari survient très tôt. Sa maladie mentale l'a menée à chercher à se suicider en se jetant dans le Rhin. C'est le thème de la Lorelei, la malédiction de l'amour. Puis à finir dans un hôpital psychiatrique. Elle consacre alors sa vie à la diffusion de l'œuvre de son mari. Même si elle avoue « une nouvelle vie commence pour moi ». Sous-entendu, je vais être plus libre, car le statut de la veuve à l'époque était très enviable pour une femme de caractère. Elle continue sa vie de concertiste itinérante. Elle est très douée pour établir des contacts avec les organisateurs de concerts, en Allemagne, en Angleterre, à Paris, et aussi pour négocier avec les éditeurs. C'est comme ça qu'elle impose petit à petit la musique de son mari, Robert Schumann. Car celui-ci, au début, n'est pas du tout apprécié. Par exemple, les Anglais lui préféraient largement Mendelssohn. Ils étaient heurtés par la modernité de Schumann. Le jeune Johannes Brahms, lui aussi, a veillé sur Schumann jusqu'à sa mort. C'est un ami de la famille, sur lequel Robert ne tarissait pas d'éloges. « Il est venu, cet élu, » disait-il. « Sur son berceau, les grâces et les héros semblent avoir veillé. » Brahms s'occupe des enfants des époux Schumann après la mort de Robert et quand Clara est sur les routes. C'est elle qui lance sa carrière et le conseille. Leur amitié est indéfectible. Clara et Johannes ont beaucoup correspondu. Je vous parlerai de lui, Johannes Brahms, dans une prochaine émission, ainsi que de Mendelssohn. Au cours de sa longue carrière, plus de 60 ans, Clara vit les événements révolutionnaires de 1848, le printemps des peuples. Dans son journal, elle témoigne d'une véritable conviction démocratique et républicaine. Elle est choquée lorsque certains aristocrates parlent du peuple comme de la racaille. « Ah !» s'exclamait-elle, « quand viendra-t-il le temps où tous les hommes auront les mêmes droits ?» Le 6 mai dernier, à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines à Toulouse, un public conquis a pu écouter ses trois romances pour violon et piano opus 22, interprétées par Yaewon Kim au violon et Kishin Nagai au piano. Écoutez l'Andante Molto. Il fait chanter le violon comme un éperdu, sur une texture de clavier fragmentée, puis continue. Thank you. L'Allegretto sert de centre avec un tendre discours. La troisième romance est annoncée passionnément rapide, avec ses vagues de double croche staccato au piano, tandis que le violon donne l'effet de la houle, avec ses notes legato. Thank you. C'est un des paradoxes du romantisme de faire part de la langueur et du vague à l'âme, comme de la fougue et de la passion, avec la vitesse d'interprétation, la virtuosité. Nous voyons donc que Clara était une femme formidable, qui réfléchissait sur son temps, et qui voulait aussi le faire changer, en particulier en faisant connaître l'œuvre géniale de son mari, tout en affirmant sa forte personnalité par sa composition et son jeu typiquement romantique, sa foi dans l'amour avec passion, tendresse et mélancolie parfois. Donc avec romantisme. Je vous laisse sur un lied que Clara a composé sur un poème du grand romantique Heinrich Heine, Sie liebten sich beide, ils s'aimaient tous les deux, qui exprime la complexité de l'amour. Je vous donne rendez-vous sur Altitude FM tous les troisièmes jeudis du mois à 17h.